Et voici venu le moment d'approfondir nos connaissances, l'occasion de nourrir nos idées, le temps du plaisir d'apprendre. C'est l'heure de l'éloge du savoir, Christine Goémé. Bonsoir à tous. Ce soir, les cours du Collège de France. John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Sociétés de la Rome antique, consacre ce cours au culte des morts dans l'Italie antique et dans les provinces septentrionales de l'Empire. Il utilise et compare les textes littéraires qui décrivent les rites mortuaires avec les découvertes archéologiques les plus récentes qui permettent de compléter les informations ou de forger des hypothèses sur les pratiques funéraires que les écrits laissent de côté. Ce que nous apprennent les découvertes archéologiques les plus récentes, c'est la grande diversité des pratiques mortuaires qui existaient dans l'Antiquité romaine, suivant les époques et suivant les lieux, même si le déroulement du rituel restait, lui, rigoureusement le même. À partir du IIe siècle de notre ère, et sans doute sous l'influence du christianisme, l'inhumation supplanta la crémation qui avait largement dominé les pratiques funéraires. On accompagnait le corps, plus ou moins somptueusement, suivant le statut social du mort. Soit le corps était brûlé à Lustrinum, qui était une aire de crémation publique, soit la crémation avait lieu directement au-dessus d'une tombe creusée à même la terre. C'est ce qu'on appelle les fosses à cendres, car les restes du corps venaient s'y enfuir directement au moment même de l'effondrement du bûcher. Quant aux riches défunts, ils étaient incinérés séparément dans des lieux privés. Les cadavres étaient brûlés avec des offrandes qui accompagnaient la crémation, et bien entendu, on faisait des sacrifices aux dieux. On sait qu'à Rome et dans toutes les provinces romaines, le deuil durait 8 jours, et que le 9e jour marquait la fin du deuil. Mais chaque région avait ses propres traditions. C'est pourquoi John Shedd examine les découvertes faites dans plusieurs nécropoles de tout l'Empire romain pour comprendre les déroulements des cérémonies en s'appuyant parfois dans ses cours sur des projections d'images qu'on peut facilement se représenter. Une journée après la crémation, les ossements étaient recueillis, lavés, est placé dans un vase ou une urne, entreposé ensuite, si le mort était riche, dans un caveau familial, sinon dans une niche du columbarium collectif. Tombeaux et niches étaient plus ou moins décorés. Mais que se passait-il entre le moment où l'on recueillait les restes du corps, ainsi que les offrandes qui n'avaient pas été réduites en cendres sur le bûcher, et le moment où le tombeau ou la niche était scellé? Écoutez.
Comment se passait maintenant la déposition des restes recueillis dans les cendres du bûcher? Était-elle accompagnée de rites particuliers? Les textes étant complètement muets à ce sujet, les fouilles peuvent nous fournir des renseignements précieux et très éclairants. Vous connaissez les riches mobiliers qui ont été déposés dans certaines tombes et dont la célébrité est due au fait qu'ils n'ont pas été soumis au feu du bûcher, mais ont été disposés dans la tombe après la déposition des restes du défunt ou de la défunte. Quand vous allez au musée et voyez de superbes mobiliers, ou bien ils proviennent de tombes à inhumation où il n'y a pas de feu, ou bien alors ce sont des dépositions secondaires qui sont venues s'ajouter à ce qui a été détruit sur le bûcher et qui donc vous montrent des objets entiers. Sinon, ce serait bien triste, il n'y aurait que des objets fondus et détruits par le feu. Cette pratique a varié dans le temps. Encore à la fin de la République et au début de notre ère, certaines tombes correspondent à la catégorie des tombes à mobilier très riche, à des dépositions secondaires très riches, que ce soit en Italie comme ailleurs dans le monde romain au début de notre ère. Cette pratique, évidemment, a énormément varié. encore à la fin de la République, donc certaines tombes correspondent à cette catégorie, même si un mouvement s'amorce vers le début de notre ère, qui consiste à placer moins de mobilier dans les tombes. En Italie, ainsi, les tombes à crémation contiennent de moins en moins de matériel à partir du début de notre ère, même si du côté de l'Adriatique, dans le nord-est, les tombes continuent pendant un certain temps à perpétuer la tradition des tombes encombrées de matériel. En comparaison à Sarsina et à Vogenza en Émilie-Romagne, le mobilier est encore fréquent. Dans la Gaule méridionale, on peut voir comment la vaisselle, les amphores et les armes diminuent à partir du IIe siècle avant notre ère pour disparaître au cours du Ier siècle. En Gaule septentrionale, à Belginum, ce vicus trivir dont nous avons souvent parlé, ont été découvertes quelques tombes de la première moitié du Ier siècle contenant des armes qui, d'après les fouilleurs, ont appartenu à des trévires qui ont servi comme auxiliaires dans l'armée romaine. Nous verrons dans la suite que l'habitude de déposer du mobilier dans la tombe, notamment de la vaisselle de banquet, ne disparaîtra jamais entièrement au cours du Haut Empire. La pratique est encore attestée au IIIe siècle et jusque dans l'Antiquité tardive. Toujours la variété locale et même dans la même nécropole. Mais la richesse de ce mobilier est très variable. En Germanie, par exemple, même dans les zones fortement romanisées, les tombes ne contiennent très rapidement que des balsamères, des lampes, des monnaies et éventuellement quelques vases à liquide. Une fois de plus, tout dépend, comme je viens de le dire, des coutumes locales et familiales, et ce n'est que progressivement que les rites changent. Revenons au déroulement des funérailles. Les ossements ont été rassemblés dans des proportions variables et déposés en pleine terre, enveloppés dans un linceul ou dans un panier en matière organique, ou bien alors introduites dans un ossuaire où ils pouvaient également être enveloppés encore d'un tissu. Dans certains cas, des creux au-dessus des ossements ont été interprétés comme la trace laissée par des végétaux insérés dans l'ossuaire. Dans d'autres cas, dans l'ossuaire se trouvaient également, suivant le cas, des jambons de porc, des os de truie, des caprinés, de bœuf, de cheval. Il arrivait que, et cela se passe à Rome, comme en Gaule méridionale et, ou en Germanie inférieure, à Mayence. Il arrivait que l'on dépose aussi dans l'ossuaire sur les ossements ou bien au fond de l'ossuaire des balsamères, des flacons contenant des parfums, plus ou moins luxueux, suivant la fortune de la famille. En Italie, au Ier siècle, l'usage en était très fréquent. Alors que les flacons à parfum sont omniprésents sur les bûchers de Lyon et dans le Midi méditerranéen, ils sont bien représentés, mais pas omniprésents, dans le mobilier non brûlé déposé dans les ossuaires ou dans les tombes. Après l'époque flavienne, on tend à les retrouver surtout en déposition secondaire dans les tombes, surtout entre le milieu du Ier siècle avant et du Ier siècle après notre ère. C'est à cette époque qu'on les trouve notamment dans les ossuaires, le plus souvent au-dessus des ossements. À Altinum, près de Venise, les balsamères placés dans les ossuaires étaient en verre, ceux qui se trouvaient en revanche à l'extérieur de celui-ci en terre cuite. Encore des usages variables. Mais les flacons pouvaient aussi se trouver à côté de l'urne, elle-même, comme ici à la Madeleine, cette nécropole trévire que vous connaissez, où vous avez à côté de la vaisselle qui se trouve près de l'ossuaire, à l'extérieur, donc un balsamère, une ampoule avec, où il y avait de l'huile parfumée, ou encore à Classe et près de Ravenne, où vous avez des restes de flacons en verre à l'extérieur. Et c'est au moment de la déposition de l'ossuaire, ici, et sa couverture par cet amphore, qui sert de bouchon, si vous voulez, à la tombe, ou de couverture à la tombe, que les balsamères et d'autres vases, des vases à boire d'ailleurs, ont été déposés, déversés sans doute, et déposés au fond de la fosse. Dans les Alpes et en Auvergne, au contraire, les balsamères sont extrêmement rares. Plus au nord, chez les Trévires, je vous ai déjà montré un exemple, il y a une autre nécropole à Feulen qui comporte près de 200 tombes datant du début du 1er siècle avant au milieu du 1er siècle après notre ère. Eh bien, sur cette grande quantité de tombes, seules 3 tombes du début de notre ère comportaient un balsamère. Dans une autre nécropole très riche que nous verrons, Goeblange, un seul balsamère. À la Madeleine, que vous avez vu, il y en a 2 en tout. À Belginum et à Trèves, sur le plateau entre Cologne et Aix-la-Chapelle, Altenhofen, dont nous avons déjà parlé, les balsamères apparaissent tardivement, apparaissent vers 80, donc à l'époque flavienne, et durent à peu près jusque vers 140 après notre ère. Même s'il y a peu de tombes, ça donne toujours une indication. Et c'est à partir de ce moment-là, justement, des Flaviens, 80 après notre ère, que la zone accueillit de nombreuses villas. On voit que là, il y a des gens aisés qui commencent à s'installer et qui utilisent de nouvelles formules funéraires. Toutes ces observations tentent à démontrer que les balsamères, les parfums, sont liés à la pénétration romaine et à la diffusion des coutumes romaines, à moins que les parfums aient été contenus avant l'époque romaine dans d'autres récipients que nous ne sommes pas en mesure d'identifier. Pourquoi pouvons-nous parler de balsamères et de parfums? C'est parce qu'ils ont une forme extrêmement caractéristique, des espèces d'ampoules qu'on ne peut pas rater. Elles sont en verre ou en terre cuite, mais on ne peut pas ne pas les trouver. Donc nous pouvons faire un discours sur ces objets, les dater, etc. C'est impossible auparavant. À Rome, dans le culte même, on utilise beaucoup de parfums aussi pour parfumer les statues, par exemple. Eh bien, il y a des traces dans les textes écrits de parfums plus anciens qui sont organiques avec des végétaux et qui sont autre chose que ces parfums-là de l'époque hellénistique qui se fixent sur de l'huile d'olive ou sur des huiles et qui sont d'un autre type. Bien, un autre indice de ces pratiques importées de l'Italie est la présence des lampes. Nous avons vu que les funérailles romaines étaient toujours liées à la lumière artificielle, qu'il s'agisse de torches ou de la lumière procurée par des lampes. De ce fait, on en trouve aussi un grand nombre dans les tombes d'Italie, sur les bûchers, c'est-à-dire brûlés dans les restes de bûchers, ou alors comme déposition secondaire dans les tombes elles-mêmes. En Provence et à Lyon aussi, les ossuaires peuvent contenir des lampes. À mesure qu'on va vers le nord et vers l'est, en revanche, les lampes commencent à se faire rares sur les bûchers et aussi dans les ossuaires. En récit, vers l'Autriche et la Suisse, il n'y a pratiquement pas de lampes dans les tombes. Chez les Trévires, encore plus au nord, elles sont bien attestées à Trèves, mais à Belginum, où nous avons 2500 structures, elles demeurent extrêmement rares et témoignent d'un niveau social plutôt aisé, puisque celles qui existent sont par exemple en bronze. Mais l'aisance n'est pas la seule raison qui explique la présence ou l'absence de lampes. S'il n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de lampes dans, ou pratiquement pas, dans la nécropole relativement modeste de la Madeleine, la riche nécropole voisine de Goeblange n'en a livré qu'une. Donc ce n'est pas lié seulement à l'aisance matérielle. Dans la nécropole qui est un peu plus au nord de Feulen, que j'ai cité, il n'en existe que 2 exemplaires, comme j'ai dit, de la première moitié du 1er siècle de notre ère, et à Sept-Fontaines, où nous avons étudié un bûcher et sa nécropole, eh bien, on en trouve uniquement 3 pour 180 tombes. Ce n'est pratiquement rien. Enfin, pour mettre en évidence le paradoxe constitué par la présence ou l'absence des lampes, qui sont souvent, présence ou absence, citées comme indice ou non de la romanité, de la romanisation des pratiques funéraires dans les provinces, il convient de noter que dans la nécropole du camp légionnaire romain de Haltern en Germanie, qui date du début de notre ère, eh bien, les tombes contiennent habituellement, à côté de l'urne de l'ossuaire, un ou deux balsamères, le parfum est présent, parfois une ou deux cruches, donc du vin, mais pas de lampe. Balsamères et lampes sont donc d'un côté des marqueurs de nouveaux rites et du moins d'une nouvelle forme de célébration des rites, de l'autre aussi le résultat de choix, même chez les Romains, puisque ces légionnaires de Romains qui viennent de l'Italie du Nord en grande majorité, eh bien, ne mettaient pas de lampes dans la nécropole, dans les tombes de la nécropole de leur camp légionnaire. Continuons donc sur ce paradoxe notre enterrement. Il ne faut jamais donc conclure lampe égale romain, ce n'est pas aussi simple. Parfum égale romain, ce n'est pas aussi simple. Continuons notre enterrement. Une première question de type rituel se pose. Dans quel ordre procédait-on lors de la constitution de la tombe ? Dès qu'on parle de gestes, il y a l'ordre des gestes qui commence à devenir important puisqu'il a un sens. Et c'est par là qu'on peut déchiffrer aussi une volonté, un sens. Nous avons vu comment les ossements étaient introduits dans la tombe ou dans l'ossuaire au moment de l'ossilegium et de la préparation de la déposition des ossements ou de l'ossuaire. Voyons maintenant de quelle manière on continuait. Nous ne disposons bien sûr d'aucun indice provenant des sources écrites. Ce moment n'intéresse pas du tout les auteurs et donc il n'y a aucune chance qu'on ait une description quelconque. Les fouilles non plus n'ont pas livré jusqu'à très récemment des informations sur l'ordre des gestes accomplis lors de la mise en tombe des restes d'un corps incinéré. Nous en sommes donc réduits à quelques observations réalisées au cours de fouilles récentes. On cherche, on trouve, dit-on en général. C'est-à-dire, quand on sait ce qu'il faut regarder, eh bien, il y a une petite chance qu'on trouve quelque chose. La première nécropole dans laquelle ces observations ont été faites systématiquement, et c'est pour cela que tous nous parlons de ces nécropoles, est celle de la Madeleine. Dans un premier temps, à la Madeleine, on déposait en plein terre, dans cette nécropole-là, les cendres et les ossements. Puis étaient mis en place, dans un deuxième temps, des quartiers de viande de porc. Ceci était artificiellement recomposés en vue d'une mise en scène. Généralement, il s'agissait d'un demi-crâne de porc et de morceaux de grille costale, de jambon, avec parfois un couteau glissé sous les parts de viande ou sous un plat. C'est-à-dire qu'il faut vraiment bien connaître les ossements d'animaux pour voir que tout cela n'est pas simplement une moitié de cochon, mais que c'est un cochon tué ailleurs, dont on a coupé la tête, partagé en deux, et qu'on a replacé là, et on a reconstitué l'unité pour symboliser qu'il y a une moitié de cochon, en quelque sorte, dans la tombe. Ensuite, troisième temps, des dépositions. Donc d'abord, il reçoit de la viande, dirions-nous, le défunt, la tombe. Ensuite, c'était la vaisselle en céramique déposée autour de ces différents éléments. Ce genre d'observation a pu être fait parce que l'équipe était consciente de l'enjeu et parce qu'un archéozoologue participait directement à la fouille des tombes. Il s'agissait de Patrice Méniel. Sans cette expertise de spécialiste, les fouilleurs auraient risqué de passer à côté de ces observations, notamment celle, je l'ai dit, de la recomposition artificielle des quarts de porc au moment de la déposition dans la tombe. Dans le Midi de la Gaule, ce procédé est attesté également avec d'autres nouveautés, d'autres variantes. Les résidus sont placés les premiers, cette fois-ci, dans la caisse en bois ou en pierre servant de tombe. L'ossuaire est installé ensuite, mais parfois des cruches ou des balsamères sont placées au fond, comme à replat de Savoie et d'une manière différente à Nîmes, dans le dépôt dit 347 du Mas des Abeilles, une tombe que vous avez déjà entendu mentionner. À l'intérieur du coffrage en pierre, sur le fond, a été trouvée la masse osseuse, 33 grammes seulement. Elle était enfermée dans un petit coffret en bois qui contenait également une offrande de carnet en connexion de nouveau. Sur ce coffret était posée une autre offrande de carnet, vous voyez l'os, et un plat. Un meuble en forme de table surmonte cet ensemble. Donc on voit très bien les gestes qui ont servi à installer tous ces ensembles. Et cette table reçoit les vases pour la boisson. Vous voyez que les vases, les plats, qui sont c'est la vaisselle pour recevoir des aliments solides, viande, purée, tout ce que vous voulez, sont placés en bas. Et ceci, ce sont des liquides avec les vases à boire ici. Si je lisais ça de façon romaine, je pourrais vous dire que ça, c'est la prima mensa, c'est le premier service d'un banquet formel où on sert aux convives de la viande avec du pain. Puis on déblaye et on met ce que les Romains appellent la secunda mensa, la table seconde, la deuxième table avec le symposium, c'est-à-dire le banquet de boissons. C'est à ce moment-là qu'on fait circuler des parfums, des couronnes de fleurs, du vin et des friandises. Et on a l'impression que c'est cette mise en scène que nous voyons dans la tombe. Mais n'oubliez pas que nous sommes à Nîmes, même si ce sont des régions qui, sous l'Empire, sont devenues très romaines. Il est évident que ces différents meubles et dépôts sont installés successivement, de sorte que l'on peut reconstituer les gestes de la déposition. La présence de la table et des coffrets est déduite de la stratigraphie relevée au moment de la fouille, et notamment des traces d'effondrement des structures. Les dépositions alimentaires diverses sont faites dans la tombe après la déposition de l'ossuaire ou du linceul contenant les cendres et les ossements. Alors que les tombes de Pompéi n'ont pas livré jusqu'à présent des dépôts alimentaires secondaires dans l'ossuaire ou dans la tombe, à Nîmes, on trouve dans le coffre funéraire des os en connexion ou non qui appartiennent à des moutons, des chèvres, des agneaux, des cabris, du poulet, du poisson, certains déposés dans ces assiettes que vous avez vues. D'autre part, les reliefs de banquet sont jetés pêle-mêle dans le coffre. Ainsi que Valérie Bell le suggère, les différents niveaux auxquels les offrandes sont découvertes traduisent leur position dans des coffrets ou sur des tables concernant strictement les restes du défunt et sur d'autres surfaces destinées au rite sacrificiel de l'ensevelissement. Elle a donc mis en rapport, et d'autres avec elle, différents niveaux dans les tombes qu'on arrive maintenant à identifier par la fouille qui nous révèlent des meubles qui, bien sûr, ont complètement disparu à cause de l'humidité au cours des 2000 ans passés. Et on arrive maintenant à faire des hypothèses sur ce mobilier de tombe. C'était des études qui n'existaient pas encore au moment où, chez les Trévire, on a fait les fouilles à la Madeleine. Il est possible que là aussi, ces meubles aient été présents, mais comme les archéologues n'avaient pas l'idée que ça puisse exister, ils n'ont pas regardé. Donc ça, c'est définitivement perdu. Ils peuvent peut-être récupérer quelque chose, mais c'est perdu. Mais là, il est vrai, c'est des tombes assez larges souvent, et ce n'est pas en hauteur que ça se passe, mais plutôt dans l'espace, en largeur. Les types des vases change par rapport à ceux qui proviennent du bûcher dans les dépositions secondaires. Michel Polfer, le fouilleur de ce bûcher qu'on a cité souvent et que tout le monde cite, a constaté que dans la nécropole de Sept-Fontaines, 80% des vases déposés dans les tombes étaient des vases pour boire, donc des vases de banquet de vin. Seuls 7% des vases pour solides et 12% de vaisselle de cuisine. Frédéric Blaiseau ne constate pas une partition aussi nette dans le sud de la Gaule, mais lorsqu'on observe la séquence des dépositions dans une tombe comme celle du mas des abeilles, on dirait que les vases à solides sont déposés sur le fond du coffre, les vases à libation au-dessus, notamment sur des étagères, comme je l'ai expliqué à l'instant. On peut s'interroger sur la chronologie précise. Une fois qu'on a découvert une séquence de dépositions et de gestes, la deuxième question vient tout de suite. Quel est le minutage, si vous voulez, de cette déposition dans la tombe? Ces dépositions étaient-elles faites en un seul temps, au moment où on constitue la tombe, un enchaînement immédiat? Une fois que la vaisselle, la cuisine de ces sacrifices était réalisée, ou est-ce que ces dépôts étaient faits successivement, après plusieurs heures, plusieurs jours? C'est là notamment que le comparatisme de l'article de Hugh Linz, et que j'ai déjà cité une fois, peut nous montrer qu'il n'est pas absurde de penser à une séquence plus étendue dans le temps des dépositions. Pendant tout le temps, jusqu'à la fermeture de la tombe en Chine, des offrandes de nourriture sont faites aux heures des deux repas quotidiens. Donc la tombe est ouverte et à chaque fois que les vivants mangent, on dépose aussi quelque chose dans les tombes. Sans vouloir aller plus loin dans la comparaison, j'évoque simplement la possibilité qu'après la déposition de l'ossuaire et de restes de banquets de crémation, d'autres offrandes alimentaires aient été faites aux défunts qui auraient été déposées successivement, après un jour ou deux, je ne sais pas, dans le coffre, sur la table, etc. Ceci impliquerait évidemment que la tombe soit restée ouverte pendant tout ce temps. Et vous vous rappelez que j'ai déjà posé cette question. Je me demande ce qui se passe à Rome, par exemple, pendant les 7 ou 8 jours avant le rite conclusif. Les textes classiques ne nous informent pas du tout sur l'espace intermédiaire des jours entre la crémation et le sacrifice du 9e jour. La famille demeurait-elle cloîtrée chez elle, comme c'est encore aujourd'hui le cas dans la pratique juive du Shiva, d'après laquelle la famille endeuillée reste chez elle et reçoit des visites de condoléances? Ou alors faut-il imaginer une permanence sur la tombe, peut-être moins mouvementée que celle de la veuve d'Éphèse racontée par Pétron dans le Satyricon, qui se distrait avec le soldat de garde pendant qu'elle veille sur les restes de son mari tant que la tombe n'est pas fermée? Ou bien les vases placés sur les étagères appartiennent-ils au rite de clôture de la tombe le 8e jour, le 9e jour, comme à Rome? On ne sait, mais ce sont des hypothèses qui viennent à l'esprit immédiatement dès qu'on compare un peu à ce qui se passe ailleurs. Les archéologues s'interrogent aussi sur l'interprétation de ces restes alimentaires, de ce banquet finalement. Ils songent soit à la consécration de la tombe, soit au banquet funéraire des vivants, soit à un symbole des banquets à venir dans l'au-delà. Si l'on suit les témoignages de Cicéron et de Festus que nous avons lus, ce seraient les restes en provenance du bûcher qui symboliseraient la constitution de la tombe, puisque c'est le premier sacrifice qui la fonde. Il faudrait donc attribuer les os d'animaux et de végétaux brûlés à cette phase rituelle. Les autres restes qui ne sont pas passés par le feu peuvent avoir été conservés et répétés, enfin, survivent jusqu'à aujourd'hui et répètent cette référence au sacrifice fondateur de la tombe après la déposition. C'est une deuxième hypothèse. Enfin, il peut aussi s'agir de rites de déposition qui ne sont absolument pas mentionnés dans les sources écrites que nous avons lues. Je trouve prudent de ne pas aller plus loin, car la difficulté de suppléer aux lacunes de l'information littéraire s'ajoute à la variabilité des rites selon le lieu, la famille et l'époque. Donc, trois possibilités. Ou bien c'est une répétition du sacrifice du bûcher, on le remet quand on dépose les restes dans la tombe, ou alors c'est un repas supplémentaire qui est ajouté au moment où on ferme la tombe, ou je ne sais pas, et encore d'autres possibilités. Avant d'aller plus loin, il nous reste encore un rite à évoquer, sur lequel nous reviendrons aussi. Les vases déposés dans les tombes étaient des vases du quotidien, sauf évidemment dans les tombes impériales, on imagine qu'il y avait des vases en métal précieux, etc. Les urnes étaient en marbre précieux et tout. Mais normalement, c'était des vases du quotidien. Mais ils ne sont pas tout à fait quotidiens parce qu'ils présentent souvent des traces de mutilation qui ont été indéniablement faites de façon volontaire. Quel que soit le site, cette pratique est attestée d'une manière ou d'une autre. À Pompéi, nous le verrons, elle est attestée autour des tombes en surface, mais renvoie à la même intention. En revanche, en Gaule méridionale et septentrionale, le bruit des vases déposés dans les tombes est très fréquent. Il est donc difficile de rapporter cet usage à une survivance de l'époque antérieure, par exemple gauloise. Voici deux exemples de bris de vases, de nécropoles que vous avez vus. La calade, on en parlera souvent, vous avez ce contenant de liquide, de vin sans doute, ou d'huile, et vous voyez qu'il a indéniablement reçu un coup de pioche ou quelque chose sur la panse qui l'a fait exploser dans la tombe. Et encore plus net, à Lyon, rue du commandant Charcot, il y a ce vase en bronze qui a très clairement aussi pris un coup. Pourquoi ? C'est tout un problème et qui est très intéressant. Je dirai quelques mots maintenant, puis nous reviendrons à cette histoire plus tard. S'il peut y avoir une discussion à propos de la vaisselle aussi qui est passée au feu comme ces trois assiettes et qui a, selon certains, éclaté simplement du fait de la chaleur, cette explication ne peut pas valoir pour les vases déposés dans la tombe au moment de l'ensevelissement des restes de l'incinéré, puisque là, il n'y a pas de flamme. Il s'agit manifestement d'autre chose, d'autant plus que dans certains cas, comme à Lyon, où le vase en bronze, intentionnellement perforé, que je vous ai montré, a été placé au sommet de la couche de crémation d'un bûcher. Vous voyez ici des plats en céramique sigillée où une partie est passée par le feu, le reste non. Paul Fer a défendu l'idée que c'est la chaleur qui a fait exploser ces vases en citant des exemples. Mais il y a d'autres exemples de vases qui ne sont pas passés par le feu et qui sont quand même aussi dans les tombes. Frédéric Blaiseau suggère que ces trous que nous pouvons voir parfois dans la vaisselle, et je vous en montrerai un tout à l'heure, peuvent avoir été liés à des tubes de libation communiquant avec la surface. C'est possible, il en existe de nombreux exemples, et nous le verrons quand nous parlerons des rites de commémoration. Pourquoi alors donc brisait-on la vaisselle funéraire ? Il est à envisager que, comme pour les rites observés par les Romains lors des funérailles, c'est-à-dire les inversions ou les déplacements d'attitude ou de vêtements, et d'autres rites que nous verrons encore, il s'agissait d'une pratique qui retirait cette vaisselle du mort ou de la morte de son utilisation courante. Elle en faisait une vaisselle de mort, dont le bris systématique énonçait qu'elle ne pouvait pas servir aux vivants, aux non-morts. Peut-être faut-il aussi distinguer entre tous ces vases cassés. On constate que tous les vases ne sont pas brisés, en tout cas pas systématiquement. Donc le bris ne vaut que pour certains vases. Les vases à aliments solides se trouvent fréquemment intacts dans la tombe, alors que les vases à verser ou les balsamères sont cassés. Or, si l'on se rappelle que l'on tend à jeter, mitérer, les offrandes aux dieux d'en bas, comme nous l'avons déjà mentionné, on peut se demander si les balsamères, vases à parfum, et les cruches à libation ne sont pas en fait jetés dans la tombe, ce qui expliquerait leur fracture. Encore que certains ont reçu un coup. Est-ce que les restes de nourriture renvoyant à un acte antérieur n'avaient plus besoin d'être offerts à nouveau ? C'est pour ça qu'on les remet dans la tombe, simplement les aliments solides. La substance des vases à verser, en revanche, représentant les traces de rituels mise en acte au moment de la clôture de la tombe. Ce sont des questions, mais je n'ai pas les réponses. Diverses tombes ont gardé aussi des traces de fermeture, puisque les archéologues ont pu reconstruire l'existence dans la combe, je vous l'ai dit, d'un coffret fermé sur d'autres vases qui ont été déposés. Même si nous n'arrivons pas à rattacher indubitablement les rites précédents à la fermeture de la tombe plutôt qu'au rite de sa fondation, ou même des offrandes faites pendant la période des sept jours, il est évident qu'une première offrande était faite au défunt qui a définitivement rejoint le monde d'en bas. Il ne s'agit pas d'un culte régulier, mais des rites accompagnant la fermeture du tombeau et sans doute la fin de la période du deuil. Quelle que soit l'interprétation de la séquence chronologique que l'on choisisse, et on n'a pas actuellement les moyens de choisir, c'est en tout cas une offrande très nette, la dernière, faite aux morts au moment où on ferme la tombe. En ce sens-là, c'est une information. À Rome, on appelle, vous vous rappelez, ces rites les sacrifices du neuvième jour. Mais dans la mesure où un témoignage localise le même rite en province, en Afrique, au IIe siècle de notre ère, il s'agit du passage d'Apulée sur cette histoire de marâtre que nous avons lue, on peut considérer qu'à cette époque, la trame générale des rites était répandue dans tout le monde occidental. De la conclusion des rites funéraires au domicile de la famille en deuil, qui est attesté dans les rites, purification par le soufre et par l'eau, nous ne savons rien par l'archéologie. Arrivé au terme de cette forme complexe des funérailles que sont les funérailles par crémation, nous devons nous tourner maintenant vers l'autre modalité, celle de l'inhumation. Les rites sont-ils les mêmes? Et quels sont-ils? Les textes littéraires, c'est intéressant encore, ne nous apprennent pas grand-chose sur ce rite, qui a pourtant été, il le répète, dominant à Rome, mis à part la parenthèse du 1er siècle avant ou du 1er et demi siècle après notre ère. C'est peut-être à cette prédominance de l'inhumation qu'est dû le nombre important de textes et d'explications portant sur les rites exceptionnels de la crémation, qui ne représentent qu'une petite partie consciente de l'histoire romaine, parce qu'avant le 6e, 7e siècle, avant notre ère, on incinérait aussi à Rome. Mais ça, c'était sans doute oublié, ou largement oublié. Pour l'inhumation, beaucoup de sources, en revanche, n'avaient rien à dire, car c'était une pratique courante du temps où elles furent rédigées, sous l'Empire ou sous la République, avant ou après cette parenthèse. L'archéologie a donc beaucoup, tout à révéler, je crois, sur ces pratiques. Nous avons déjà évoqué la question générale de l'évolution du mode de sépulture et de l'adoption progressive à Rome, puis en Italie et les provinces, de l'inhumation, à partir en gros du IIe siècle de notre ère, fin du IIe siècle de notre ère, et je n'y reviendrai pas. Je vous cite un seul exemple, qui suffit pour signaler la complexité des situations, qui vous montre que rien n'est simple en domaine funéraire. Dans la nécropole de la Via Collatina à l'est de Rome, l'un des mausolées, le mausolée 2, reçoit d'abord une inhumation, c'est la tombe 5. Dans un deuxième temps, un dolium, contenant une crémation, s'est installé au-dessus de cette tombe. Et puis, une inhumation, la tombe 1, recouvre à son tour cette crémation. Une autre inhumation d'époque sévérienne, la tombe 2, longe ce noyau de maçonnerie avec son ossuaire, couverte par une tuile, n'est-ce pas, a accueilli le corps d'une dame, d'un monsieur, le long du dolium. Et enfin, une petite fosse, ici, a accueilli, dans la tombe 4, le corps d'une dame âgée entre 45 et 55 ans, qui souffrait d'ailleurs d'une très forte scoliose. Il s'agit, dans chaque cas d'adulte, et la tombe 4 mise à part, de tombes d'hommes. La première tombe et le mausolée sont datés de la fin du 1er siècle de notre ère. Inhumation, alors que nous sommes censés être en période de crémation. Ensuite, une crémation condamne cette première tombe et les dernières dépositions datent de l'époque sévérienne. où là, l'inhumation donc continue à partir du premier siècle, fin du premier siècle, jusqu'à l'époque sévérienne. Vous voyez donc que l'évolution n'est jamais rectiligne, même à Rome, et que tout dépend du lieu, de la famille et de la communauté qui sont concernés. Donc, cet exemple pour vous montrer la complexité du problème. Occupons-nous plutôt d'une autre question. Quels étaient les rites célébrés au moment de l'inhumation ? C'est cela qui m'intéresse. Étaient-ce les mêmes que lors des funérailles par crémation ? Autrement dit, est-ce que les traces archéologiques révèlent qu'un sacrifice a eu lieu lors de l'inhumation et selon les mêmes modalités que lors de la crémation ? D'après ce que nous vous avons déjà dit, il n'existe a priori aucune différence substantielle entre les funérailles par crémation et par simple inhumation. Nous devrions donc a priori nous attendre à découvrir dans les tombes les mêmes dépôts secondaires renvoyant au rite du jour de l'enterrement. Ce qui manque évidemment, ce sont les dépositions de restes du bûcher. Cette phase-là saute entièrement. Et on peut se demander ce qui remplace le sacrifice qui est fait au moment où on allume le bûcher. Cette impression se dégage en effet, effectivement, cette attente, l'impression que c'est cela que nous devons attendre, se dégage effectivement des résultats de l'échantillon de nécropoles que nous examinons, qui ont été bien fouillés. À Rome, les nécropoles situées aux sorties de la ville, le long des grandes routes, ne révèlent aucune différence entre le mobilier des tombes à crémation et celui des tombes à inhumation. Ce mobilier reste d'ailleurs longtemps le même, au moins jusqu'au IIe siècle de notre ère, malgré l'évolution de la forme des tombeaux et du mode de sépulture, souvent. Quel était ce mobilier ? Dans la tombe 5 du mausolée de la Via Collatina, qui est la première, c'est entre les tibias de l'inhumé qu'avaient été déposés des restes charbonneux contenant quelques dents et un os de cheval, un objet non déterminé en bronze et un clou. Ces restes témoignent donc de rites célébrés au moment de l'inhumation qui consistaient à brûler des aliments et certains objets. On ne peut pas en dire davantage. Dans d'autres sites, les données sont mieux conservées. Éric Rebillard a établi les comparaisons entre la nécropole de Mouzarna en Étrurie méridionale, où l'inhumation est pratiquement le seul mode funéraire pratiqué entre le début du IIe siècle et le premier quart du IIIe siècle de notre ère, et d'autres régions d'Italie. Dans la nécropole étudiée, vous voyez qu'il y a en moyenne 2,3 objets par tombe, sauf chez les immatures, mais vous voyez que dans cette nécropole, 17 sépultures seulement, soit 27%, même pas un tiers, ne contiennent pas de mobilier. La plupart des autres tombes renferment entre 1 et 3 objets, soit plus de 60% des tombes, et quelques tombes, 12,5%, dépassent ce nombre d'objets. Le pourcentage des tombes sans mobilier demeure relativement bas, car d'après les statistiques données par Marie-Antonietta Tomei pour la banlieue romaine, près de 65% des tombes y sont déjà vides de mobilier, avec des chiffres très élevés pour la même période, dépassant les 70% et même les 80%. On peut constater, par exemple, que dans la nécropole de la Via Collatina, que nous avons rencontrée à l'instant, 75% des tombes sont dépourvues de mobilier. En Cispadane, Jacopo Ortali a pu montrer que 43,9% des tombes, soit 44% des tombes, inhumation et crémation, entre le 1er et le 3e siècle, sont vides de mobilier, les inhumations ayant encore moins de mobilier. Pour toute l'Italie, on a calculé que seuls 15,7% de tombes à inhumation contenaient du mobilier au IIe et IIIe siècle. Toujours pour Mouzarna, Éric Rebillard a précisé que le nombre moyen d'objets déposés dans les tombes à inhumation était de 2,3, nous l'avons vu, ce qui correspond en gros à tous les inhumés sauf les enfants. Le type d'objets déposés correspond aux grandes catégories attendues, sauf que c'est la céramique qui l'emporte clairement. La vaisselle est majoritairement déposée du côté des membres inférieurs. Les vases à verser et à boire constituent l'essentiel du mobilier. Et ces vases-là sont généralement en terre cuite. Ce sont l'ossuaire et les vases à parfum qui sont généralement en verre ou dans d'autres matériaux. Les monnaies sont loin d'être omniprésentes. On les trouve dans 17 sépultures, ce qui fait à peu près 20% des tombes, un pourcentage qui correspond à celui qu'on trouve dans une nécropole romaine comme celle de la Via Fracia, par exemple, d'après ces archéologues. Les monnaies ont été retrouvées du côté de la tête ou du thorax. Les balsamères ne sont pas plus nombreux à Mouzarna, 10%, beaucoup moins que dans les crémations. Les lampes étaient présentes dans 10% seulement des tombes complètes. La plupart ont été utilisées et se trouvaient associées aux membres inférieurs. Les objets les plus nombreux qui furent tombés dans les tombes étaient des objets de parure personnelle. Parce que, bien entendu, je ne parle pas de cela, mais souvent on dépose aussi des objets personnels du mort dans sa tombe. La nécropole de Mouzarna et celle de Rome livrent donc une image relativement précise des inhumations et de l'évolution des pratiques. Elles montrent que l'usage de ne pas déposer de mobilier dans une tombe existe toujours, même dans une même localité, et que certains marqueurs de romanité, comme les monnaies ou les balsamères, ne concernent que 10 ou 20% des tombes à inhumation à Rome et en Italie. En outre, la vaisselle liée à la boisson est la plus nombreuse, et cette vaisselle a tendance à être associée aux membres inférieurs. Avant de revenir à ces questions, passons en revue d'autres données. Une tombe originale fut mise au jour lors d'une fouille d'urgence au sud de Rimini, en Émilie-Romagne. Les fouilleurs découvrirent un caveau en terre cuite qui avait été construit à l'aide de tuiles et contenait un cercueil, en plomb. D'après les restes que le cercueil contenait, il s'agissait d'un enfant d'une taille d'1,10 m environ, et par ailleurs, le cercueil contenait aussi des fragments de bois et des petits clous provenant du couvercle en bois de ce cercueil. Ce qui nous intéresse, c'est le matériel que contenait la tombe. Ce dernier n'était pas déposé dans la tombe, dans le cercueil, mais il était glissé contre la paroi de la tombe dans une sorte de comportement formé par une deuxième tuile du côté des pieds du défunt. Vous vous rappelez qu'à Mouzarna et à Rome, souvent, le matériel de banquet, est déposé du côté des pieds des inhumés. Et ici, vous avez de ce côté-là et de ce côté-là comme un petit compartiment pour mettre ces objets. Ça remplace, dans une certaine mesure, les tables ou les petits meubles de tombe que nous avons vus à Nîmes. Quels sont ces objets? Il s'agit d'une petite urne en paroi fine contenant des coquilles d'œufs, une petite patère en céramique sigillée claire, d'origine orientale, qui porte d'ailleurs des caractères grecs. Et puis, il y a deux balsamères de verre, des vases à parfum. Sur le petit côté de la tombe, dans un autre petit compartiment, de côté opposé, se trouvait une cruche. Une cruche, celle-ci, évidemment, était cassée, comme les deux autres vases, mais en outre, une partie des fragments manquait de nouveau. Faites très attention à cela, vous voyez qu'il y a toute une partie du vase qui manque, tout simplement, qui n'est pas autour de la tombe, qui n'est pas dans la tombe. Et de toute façon, il a fallu les casser pour les insérer dans ces petits compartiments de part et d'autre de la tombe. Nous avons déjà évoqué la question de la vaisselle brisée, et nous pouvons noter que cette cruche pose clairement la question. Manifestement, elle a été cassée avant d'être glissée dans le compartiment du caveau et on ne s'est pas donné la peine même de rassembler tous les fragments de ce vase. Ou alors on les a jetés sur le cercueil avant ces vases, avant de les déposer, les tessons qui en résultaient dans les compartiments prévus pour cet usage. Cet exemple prouve en tout cas une fois de plus, que les rites étaient les mêmes pour les inhumations que pour la déposition des ossements d'incinérés, ce qui est d'autant plus important puisque ces découvertes prouvent que ces dépôts sont liés au rite de la mise en terre. Nous y reviendrons. Nous constatons par ailleurs que la tombe contenait, outre des vases à parfum, un contenant avec des aliments, une cruche pour verser un liquide, du vin sans doute, et enfin une coupe à boire. La deuxième observation qui s'impose est que ces vases furent déposés dans la tombe quand le cercueil était déjà en place, et sans doute même fermé. L'auteur de la publication pense qu'il s'agit des vases utilisés par ceux qui ont célébré le service funéraire, c'est-à-dire les aliments et les boissons qu'ils auraient consommés à ce moment-là, puisqu'on sait que les célébrants consomment aussi des aliments et des boissons au moment des enterrements. Mais dans la mesure où l'urnette contenait manifestement des œufs, j'ai l'impression que cette vaisselle contenait plutôt des aliments destinés aux morts. On les a déposés là et on ne les a pas mangés dehors. Nous examinerons cette question dans la suite. Signalons encore que le mobilier correspond exactement à celui que contiennent les tombes de Rome. Voici un exemple d'après la nécropole d'Ostie et de Rome, constituée par von Hesberg, où vous voyez que dans les tombes du début de notre ère et deuxième siècle contiennent en général des vases à parfum, des vases à boire des vases à manger et à boire. Vous avez l'amphore, les cruches, et puis vous avez les pots pour les contenants. Et on a exactement les mêmes services de table, si vous voulez, dans cette tombe près de Rimini. Le rite du cercueil de plomb associé à une coupe originaire des poteries de l'Orient grec peut faire penser à un lien avec cette région du monde. Mais en fait, la pratique des cercueils de plomb est très mal connue et on ne peut pas, à propos de celui-là, faire un grand discours. Si nous nous déplaçons en Gaule narbonnaise, nous trouvons la même situation. Frédéric Blaiseau note que le mobilier des tombes à inhumation ne comporte évidemment pas l'abondant matériel des dépôts primaires provenant du bûcher qui caractérise les tombes à crémation. C'est avec les dépôts secondaires des tombes à crémation qu'il faut comparer le mobilier des tombes à inhumation. Les rites funéraires sont donc les mêmes si l'on accepte la crémation et les rites qui y sont liés. Par ailleurs, les inhumations comportent un nombre relativement bas de tombes pourvues de mobilier funéraire, je l'ai dit, 30% en Gaule méridionale, ce qui reproduit les chiffres relevés à Rome et en Italie, avec les inévitables variations. D'après ce tableau de Frédéric Blaiseau, la grande nécropole de la rue de la Favorite à Lyon ne comprend-elle que 13% de tombes à mobilier entre le 1er et le 3e siècle de notre ère. Dans d'autres nécropoles, comme au Valadas, dans la Drôme, on en trouve 47%, mais au Planté, dans l'Ain, 87%. La quantité de vases par tombe a tendance à diminuer à partir du 1er siècle, comme dans les tombes à crémation. Le mobilier comprend, à côté des vases à parfum et des lampes, toujours le même assortiment, une coupe, un petit pot et une cruche, ce qui nous rappelle encore une fois ce qu'on vient de voir pour Rome et pour l'Italie.
C'était Éloge du savoir avec ce soir John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique. Toutes les informations sont disponibles sur le site internet du Collège de France. Réalisation Anne de Pelchin, présentation Christine Goémé. Demain, suite du cours de John Shedd consacré au culte des morts dans la Rome antique. Et tout de suite, nous retrouvons les Nuits de France Culture. Belle écoute à tous.